Et on va lire donc 2 Corinthiens 6, versets 3 à 10. Paul dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors ce matin, donc dans ce passage, Paul va parler, non seulement de lui-même, mais à chaque fois il emploie le pronom personnel « nous hein, », donc il parle de ses collègues aussi, qui étaient dévoués pour l'Évangile. Et quand on lit cette introduction, quand il dit « nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme », on se demande un peu ce qu'il veut dire, et on pourrait paraphraser, comme Kuhn l'a fait avec une autre version qui s'appelle « Parole vivante », il a dit « quant à nous, nous évitons de choquer qui que ce soit, nous ne voulons placer d'obstacles sur le chemin de personne ». Il ne faut pas que le ministère apostolique soit exposé à la critique ou tourné en dérision. Au contraire, à tous égards, en toutes circonstances, nous nous efforçons de démontrer que nous sommes de vrais serviteurs de Dieu. Et puis après, il enchaîne. Et là, on comprend mieux, en fait, hein, pourquoi il va développer tout ce qu'il développe à partir du verset 4. Et dans tout ce qu'il explique, la suite, on peut voir trois volets un peu distincts. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Dans le premier volet, Paul va parler de leurs épreuves, donc lui et ses compagnons, tout ce qu'ils vivaient. Dans le deuxième volet, il va parler de leur attitude, leur comportement, eh bien, dans toutes ces choses. Et dans le troisième volet, il va parler de ce que l'on pense d'eux. Comment ils sont vus, en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de dire à leur sujet? Et en regardant tout le passage, eh bien, on a l'exemple de ces hommes, mais on a aussi l'exemple qui nous est renvoyé, et Dieu veut qu'on prenne aussi exemple sur eux. Et ailleurs, Paul a dit ce qu'il souhaitait pour les chrétiens. Dans un autre verset, il dit que son souhait, c'était que Christ soit formé en eux, que Jésus-Christ soit formé dans le cœur des enfants de Dieu. Et dans le témoignage de ses serviteurs de Dieu, eh bien, c'est aussi ce que Dieu veut faire, en fait. Il nous montre ce que c'est que d'avoir Christ formé en soi. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? Paul nous le montre, versets 4 et 5, on va relire. Il dit « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Et on a là toute une série d'épreuves qui sont douloureuses, hein, sérieuses, accablantes pour certaines. Et c'est vrai que c'est lu en très vite, hein. C'est des mots qui sont donnés comme ça, rapidement, en quelques secondes, mots M-O-T-S ou bien mots M-A-U-X, hein. Des mots voilà, qui sont dits comme ça, mais il faut peser chacun de ces mots. Et en lisant ça, on se dit, mais en fait, Paul, il n'est pas en train de se plaindre, il n'est pas en train de expliquer tous ses malheurs, et puis c'est terrible, parce qu'il pourrait développer chacun de ces termes, et on pourrait avoir tout un passage où il est en train de répandre un peu ses plaintes, mais ce n'est pas le cas. Simplement, il cite les mots avec pudeur, il dit, voilà ce que nous subissons. Tribulation, calamité, détresse, c'est pas des petits bobos, hein, des petits malheurs, des choses qui étaient un peu difficiles. Non, ça exprime désarroi, hein. Il y avait quelque chose qui était, des choses qui étaient insupportables, des grosses épreuves. Paul cite que des exemples d'épreuves. Nous aussi, pour certains, c'est vrai qu'ici, on est préservé, hein, dans notre pays, mais on peut vivre aussi des choses qui sont accablantes, qu'on peut identifier comme des tribulations, comme des détresses. Après, il parle des coups, des prisons, des séditions. Donc, on s'en prenait à eux physiquement, on leur faisait quelque chose, hein, on les frappait. Dans d'autres parties du monde, Joseph nous le rappelle, hein, quand il nous expose un peu ce qui se passe au travers des missions qui aident les chrétiens dans d'autres pays du monde où ils vivent la prison, ils vivent des coups, ils vivent des choses comme ça. Et c'est vrai que nous, on se dit parfois, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets ça dans ma vie? Mais qu'est-ce que nous dirions si quelqu'un nous frappait? Et si on était présenté devant des tribunaux, et même on nous condamnait, alors d'une manière complètement injuste, qu'est-ce que nous dirions dans ces cas-là? Et c'est ce que certains vivent, et c'était ce que Paul avait vécu. Ensuite, Paul parle des travaux, des veilles, des jeûnes. Le terme pour travaux ici, c'est pas juste une tâche, un petit travail qu'il fait, mais il y a l'idée de la pénibilité. C'est quelque chose qui était difficile. Et puis, il cite manque de sommeil. Voilà, ils souffraient d'un manque de sommeil, ils ne dormaient pas assez, ils n'avaient pas leur quota d'heures. Ils manquaient aussi de nourriture. Nous, on est, je pense, tous rassasiés, mais lui, il manquait de nourriture. Donc, il y avait un épuisement qui était physique, certainement qui devait toucher le moral. Là, on a tous les facteurs pour avoir une dépression, en fait. Là, hein. Quelqu'un qui vit ça, eh bien, il tombe facilement en dépression. Mais Paul ne fait pas cette liste d'épreuves pour se vanter, mais pour montrer ce que doivent produire ces épreuves, puisqu'il dit « Nous nous rendons recommandables par beaucoup de patience dans tout cela. » La patience. La patience, c'est cette qualité qui permet de supporter, d'endurer, de traverser, d'attendre, de rester là où nous sommes quand c'est difficile. Être patient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'ère du haut débit, à l'ère de la fibre. Il faut que ça aille vite. Il faut que tout aille vite. Il faut qu'on nous serve vite. On développe des photos en une heure. Je me souviens, avant, on déposait la pellicule. On venait la chercher 3 jours plus tard. Tout doit aller très, très vite. Et si on n'est pas servi dans les temps, on commence à pester, hein. On commence à râler parce que ça ne va pas assez vite. Parfois, il y a dans les centres commerciaux, voilà, ils garantissent 10 minutes. Vous n'attendrez pas plus de 10 minutes à la caisse parce qu'il faut que ça aille vite. Mais même si le monde veut que tout soit rapide, et même si on s'irrite si ce n'est pas rapide, Dieu utilise le temps. Dieu se sert du temps. Et le temps est aussi une bonne chose. Hein. Et Dieu veut développer en nous la patience de Christ. La patience de Jésus-Christ, c'est ce que Paul dit dans un verset. Il dit « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Donc Dieu veut qu'on développe la patience de Christ, que nos cœurs se dirigent vers la patience de Christ. Et donc il met en avant l'amour de Dieu et il met en avant la patience de Jésus-Christ. Et Christ a démontré une vraie patience durant toute sa vie terrestre. D'abord, c'est touchant de voir qu'il a commencé son ministère à 30 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, il a attendu. Il n'était pas moins Dieu à 20 ou 25 ans. S'il n'était pas moins Dieu, il était aussi homme. Et donc, il savait ce que c'est que d'être dans le temps et d'attendre. Et imaginez quand vous avez une mission, vous avez un appel, vous avez quelque chose, vous savez que vous devez l'accomplir, et puis vous êtes là... Vous attendez. Il a attendu 30 ans. 30 ans, patiemment. Et puis, l'heure est venue d'entrer dans son ministère. Alors, il rentre dans son ministère. Il va manifester sa puissance, mais il va attendre encore 3 ans et demi, avant de faire vraiment ce pourquoi il était venu. C'est-à-dire mourir sur la croix, s'offrir en sacrifice. Mais avant ça, il a peut-être vécu les heures les plus longues au niveau du temps, quand on l'a frappé, on l'a flagellé, on l'a insulté, on l'a humilié. C'était des heures qui devaient être abominables, longues. Et puis finalement, on le met sur cette croix, 3 heures d'agonie qui devaient aussi être très longues. Il ressuscite, il monte au ciel. Et là, après, il attend 2000 ans. Il vient d'attendre 2000 ans, là. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais il prend patience, attendant que chacun puisse venir à lui. Et on pourrait aussi parler de sa patience à notre égard, nous chacun. Quand Dieu prend patience envers nous, il attend, et il attend. Il attend qu'on fasse des progrès. Il attend que, voilà, on mûrisse. Il attend qu'on abandonne une mauvaise habitude, qu'on abandonne des choses qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, comme des mauvaises herbes qu'on a du mal à arracher. Il patiente encore. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et Dieu veut que nous soyons patients. Et il ne nous épargne pas nos épreuves, justement parce qu'il veut multiplier cette patience dans notre vie. Parce que les épreuves sont clairement envoyées ou permises par Dieu comme étant un moyen de développer la patience. C'est ce que Jacques dit, il dit « L'épreuve de foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. » Il dit encore « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et donc il y a un gain, il y a une bénédiction, il y a une maturité, il y a quelque chose qui s'acquiert que par les épreuves. Ce n'est pas possible autrement. C'est par les épreuves qu'on acquiert la patience de Christ, épreuve de notre foi. Alors on se dit, mais pourquoi ça m'arrive, Seigneur ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi ça dure si longtemps, si longtemps ? Pourquoi il semble que Dieu m'ait oublié ? Alors qu'on sait très bien que Dieu n'oublie pas ses enfants. Il n'oublie aucun de ses enfants. Mais on se dit, mais pourquoi Dieu m'a oublié ? Et il y a beaucoup de pourquoi face aux épreuves de notre foi. Et voilà, la foi est comme passée dans un feu. Hein. Elle est éprouvée sans cesse. Vais-je croire ? Vais-je encore lui faire confiance ? Et dire, oui Seigneur, je crois en toi. Job a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Même, voilà, il n'a plus rien. On lui a tout pris. Il ne reste plus que la mort. Il dit, quand même, il me tuerait. Je ne cesserai d'espérer en lui. Est-ce que c'est notre cas ? Il dit, Paul, nous nous rendons recommandables à tous égards par beaucoup de patience. Et que Christ se soit formé en nous, formé en soi, eh bien, ce n'est possible que par les épreuves et par le développement de cette patience. Ce caractère qui est doux, qui est paisible, qui se confie en Dieu, qui lui fait confiance. Ensuite, deuxième volet, Paul va parler de leur attitude. Comment se comportaient-ils ? Comment réagissaient-ils face à ces mauvaises circonstances, à ces choses difficiles, affligeantes qu'ils vivaient ? Parce qu'ils réagissaient. Et regardez comment il réagissait, versets 6 et 7. Il réagissait par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Et ici, on vient de voir que Dieu veut développer en nous la patience par les épreuves et par l'épreuve, la patience de Christ. Il veut aussi qu'on développe le caractère de Christ. Parce que c'est de ça dont il s'agit en partie dans ce passage. Et c'est pas facile de bien réagir quand on vit des choses qui sont difficiles. C'est pas facile non plus d'être constant et d'être toujours un reflet de Jésus. Pas facile. Et il y a beaucoup de situations dans nos vies quotidiennes où on est comme poussé à nos limites. On est arrivé, voilà, Par exemple, nous, avec nos enfants, parfois, voilà, il suffit qu'on soit un peu fatigué, à cran, on est poussé à nos limites. Et il y a d'autres situations, dans le travail, dans la famille, avec notre voisinage, où on est poussé à nos limites, on est prêt à craquer. Parfois, on craque. Parfois, on craque. Et ça peut paraître comme un échec. Une situation qui nous dit, voilà, tu n'es pas là où tu devrais être. Christ n'est pas encore formé en toi. C'est une réalité où tu n'es pas à la hauteur. Mais l'œuvre de Dieu, c'est que Christ soit formé en nous. C'est le but. Oui, peut-être, c'est pas encore parfait. Mais Dieu est en train de nous conduire dans cette direction. Et parfois, ben voilà, nos échecs hein, nous montrent, voilà, il y a encore du progrès. Mais persévère, continue, n'abandonne pas. Parce que c'est sa volonté. Que Christ soit formé en vous. C'est pas quelque chose qui arrive, paf, en un coup, ça serait merveilleux, mais c'est pas le cas, à la conversion. C'est avec le temps. Ça prend du temps. Et Dieu veut nous conduire toujours à, un peu plus à être semblable à Jésus. Et quand bien même, on n'est pas à la hauteur, hein, on n'a pas encore ce caractère parfait de Jésus dans toute sa beauté, Dieu veut qu'on y tende, qu'on vise ce but. Et Paul donne à la fois des qualités qui sont inatteignables, humainement parlant, la pureté. Il parle de la longanimité, la bonté, l'amour sincère. Mais il donne en même temps ce qui nous rend capables d'atteindre ces qualités, puisqu'il dit ensuite l'Esprit Saint, la parole de Dieu, la parole de vérité, la puissance de Dieu. Les armes offensives et défensives de la justice. Et là, on a comme des leviers, comme des éléments concrets qui nous aident à parvenir à ce qui est inatteignable humainement parlant. Ça rend le possible, l'impossible possible. D'abord, l'Esprit Saint, bien sûr. Sans Christ, on ne peut pas. Sans Christ, on ne peut pas se retenir de péché. Hein? C'est pour ça que Jésus est venu, justement, pour nous donner la capacité de dire non et de nous retenir. Bien. L'Esprit Saint, c'est essentiel. On ne peut pas vivre la vie de Dieu ailleurs qu'en Christ. Et en Christ, ben c'est par l'Esprit. Esprit de force, d'amour, de sagesse, ou de puissance, d'amour et de sagesse. Et donc c'est par l'Esprit que Dieu veut imprimer le caractère de Jésus dans notre cœur. Ensuite, il cite la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans les promesses de Dieu? Sans les versets qui nous relèvent le matin quand on est découragé? Sans les paroles qui nous disent « c'est possible ». Sans les paroles qui suscitent la foi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire, mais on a la parole de vérité. Cette parole qui imprime des pensées vraies sur la réalité de notre adoption, la réalité de ce que nous sommes enfants de Dieu, de ce que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, de ce que la victoire nous est déjà donnée. Nous sommes avec lui, et avec lui nous sommes plus que vainqueurs. Je suis fort par celui qui me fortifie, plus fort. Ensuite, il cite les armes offensives, défensives de la justice. Et dans la vie chrétienne, Dieu nous donne des armes offensives, défensives. Vous connaissez Éphésiens 6 pour la plupart, hein, avec cette ceinture de la vérité qui nous permet de nous tenir droit, rester droit dans nos bottes. La cuirasse de la justice qui nous protège le cœur, pour qu'on puisse être toujours intègre. Le zèle qui nous pousse en avant pour le Seigneur. Le bouclier de la foi qui permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Avoir confiance, croire, croire, croire. Toujours faire confiance. Le casque du salut, essentiel, vital. Si on n'est pas sûr d'être sauvé, comment on peut vivre la vie chrétienne? Il n'y a pas de vie chrétienne en fait. On a besoin d'être sûr d'être enfant de Dieu. D'avoir cette certitude par l'Esprit Saint. Si on n'a pas ça, et alors c'est vain, c'est vain. Le casque du salut et enfin l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui nous permet de parer les coups, mais aussi d'en donner, d'avancer, annoncer la vérité. Et Dieu ne nous a pas laissés tout seuls en disant « Allez maintenant, soyez purs, soyez saints, supportez tout !» Ça serait terrible. Non, Dieu nous a donné son esprit, l'esprit de Jésus, pour nous rendre plus que vainqueurs et nous aider justement dans toutes nos difficultés et nous transformer. Si on n'est pas encore parfait, Dieu est en train d'opérer un processus de transformation. Il est en train de former Jésus-Christ en nous. Et il se sert de tout. Il se sert de tout ce que l'on vit. Enfin, le troisième volet, Paul va parler de ce qu'on pouvait penser d'eux. Qu'est-ce qu'on pense de vous ? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pense de vous ? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pense de vous ? Est-ce que vous avez peur de ce qu'on pense de vous ? De ce que certains peuvent penser de vous ? Regardez ce que Paul et ses compagnons vivaient. Versets 8 à 10. Ils vivaient au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et un chrétien, il est parfois dans sa vie considéré, aimé, et puis le lendemain, il peut vivre le plus grand mépris, parfois des mêmes personnes qui l'ont aimé et considéré. On peut passer comme ça, c'est incroyable, de l'un à l'autre. Et c'est inexplicable, si ce n'est par le fait qu'il y a un combat. Il y a un combat qui est spirituel. Et il y a un ennemi, bien sûr le diable, hein, Satan, c'est certain. Mais il n'y a pas que lui, ou en tout cas, il n'agit pas forcément directement. Parfois, il se sert aussi des hommes et par le biais de la chair. Il se sert des hommes. Et donc, on vit aussi ce combat avec l'extérieur. Et quand le diable ne nous attaque pas d'une manière directe, par exemple en venant nous bombarder de pensées mauvaises, pensées impures, pensées mensongères sur nous-mêmes, sur notre vie, sur Dieu, sur l'Église, sur les frères et sœurs, quand il ne vient pas nous bombarder de ces pensées, eh bien, il peut aussi se servir parfois de personnes qui ne vont pas bien avec le Seigneur. Parfois, c'est des gens loin de Dieu. Et parfois, c'est des chrétiens, mais qui ne vont pas bien avec le Seigneur. Alors, eh bien, il va s'en servir pour nous faire du mal. Et de là, l'ignominie, la mauvaise réputation, même si nous, on se sent irréprochable, on n'a rien fait de mal. Et on se souvient que plusieurs n'aimaient pas du tout Paul à Corinthe. C'est aussi une des raisons pour laquelle il a écrit cette deuxième lettre aux Corinthiens. Alors ils ont cherché à le salir, à le diminuer, à le calomnier. Alors on disait par exemple, c'est un faux apôtre, un imposteur. Surtout ne l'écoutez pas, c'est un imposteur. Ou bien, il n'est pas la personne qu'il prétend être. Il n'est probablement même pas sauvé, vous savez, l'apôtre Paul. C'est un inconnu, inconnu de nous, inconnu de Dieu. Ou bien lancer des calomnies. Paul ne viendra pas. Il est mourant. Ou bien, regardez, on est en train de le frapper. Forcément, il est châtié. Hein, c'est une punition. Ou bien encore, Paul est quelqu'un de sombre, de triste. Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, mais il est terrible. C'est vraiment quelqu'un sans intérêt, de pauvre. Oubliez-le. Mais c'était des mensonges. Et Paul, eh bien, rétablit la vérité. Il dit, mais ben, nous sommes véridiques. Au contraire, nous sommes véridiques. Et nous sommes bien connus, connus du Seigneur, et puis connus des frères fidèles. On n'est pas mourant, au contraire, on vit de la vie de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, on est éprouvé, mais on n'est pas à l'extrémité. Et puis ceux qui le fréquentaient, ils découvraient aussi la richesse de son caractère qui était sanctifié par Christ. Il était au contraire joyeux, il était généreux, il enrichissait constamment autour de lui les frères et sœurs. Mais même si on sait où nous en sommes avec Dieu, nous, et la réalité de notre marche avec Jésus tous les jours, ça fait mal quand quelqu'un nous juge ou vient souiller notre réputation. Ça fait toujours mal. Quand vous vous dites, oh, on est en train de dire du mal de moi, c'est pas quand vos oreilles sifflent, hein. Mais parfois c'est la réalité. Ça fait mal, quelque part, ben, voilà, hein. Ça nous touche, hein. Et il faut se dire une chose, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. On aimerait bien plaire à tout le monde, mais c'est pas possible. Parce qu'il y a un ennemi, alors forcément, on va déplaire à certains si voilà, on reste fidèle au Seigneur. Et si ça ne nous arrive pas aujourd'hui, ça nous arrivera probablement un jour. Pourquoi ? Parce que le diable, il aime bien calomnier, il aime bien salir. C'est une de ses armes. Il aime critiquer, il aime essayer de détruire. Par un voisin du quartier, par quelqu'un de sa propre famille, par un frère, par une sœur, hein, qui ne vont pas bien avec le Seigneur. Hein. Alors, maintenant, comment nous allons-nous le prendre ? Comment nous allons réagir à cela ? Une des réactions, ça peut dire, ah ben moi je vais dire du mal de la personne. Puisque j'imagine qu'elle dit du mal de moi, eh ben je vais en dire d'elle. Certainement pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Et Paul fait un constat, un simple constat de ce qui se produit, de ce que produit son apostolat. C'est un fait, il ne peut pas changer ça. Parce qu'il aime le Seigneur, qu'il cherche à faire sa volonté, alors il subit l'ignominie, il subit la mauvaise réputation. Mais on doit apprendre à aimer Jésus-Christ plus que ce que l'on peut penser de nous. Apprendre à aimer Jésus-Christ plus que ce que l'on peut penser de nous. Si vous réfléchissez au Seigneur, ben le Seigneur, on a dit, c'est un imposteur. Il n'est pas la personne qu'il prétend être. C'est un imposteur. On a dit, c'est un inconnu. Il n'est certainement pas le Messie, hein. Il est châtié de Dieu. Hein, vous lisez Ésaïe 53. Puni, frappé des hommes, humilié, condamné, un triste, un pauvre, quelqu'un qui ne mérite rien. Il ne mérite que la mort de la croix. Jésus a dit, mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. David disait la même chose dans un psaume. Je leur fais du bien ? Ils me font du mal, Seigneur. Jésus, ils m'ont haï sans cause. Et pour nous, le Seigneur dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est écrit. S'ils ont persécuté Jésus, alors eh bien, ils vous persécuteront aussi. Et on doit apprendre à aimer Jésus plus que ce que l'on peut penser de nous. On doit passer au-dessus de ça. Et pour que Christ soit formé en nous, il faut aussi développer notre satisfaction en Jésus seul. On a chanté tout à l'heure, en Jésus seul. En Jésus seul. Et mon espoir, mon salut, ma gloire, mon approbation, en Jésus seul. Qu'importe si on pense mal. Moi, ce que je veux, c'est plaire au Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux et rien qui devrait compter plus que cela. L'approbation de Jésus seul. Est-ce que je suis caché en Jésus et il est mon tout suffisant ? Que le simple fait qu'il me parle, j'ai une relation personnelle avec lui. Et le matin, je le vois me parler à mon âme et pas me faire des reproches. Parfois il peut, il le fait, mais aussi me manifester son amour. Eh bien que ça me satisfasse. Voilà. Que ça me satisfasse. Après, on peut penser ce qu'on veut de nous, ben, ça n'a pas d'importance. parce qu'on sait qu'on est connu du Seigneur et c'est suffisant. C'est entièrement suffisant. Et il est suffisant. Il est pleinement suffisant. Dieu veut que Christ soit formé en nous. Quand on vient à Jésus, qu'on se convertit à Jésus, Dieu nous donne l'Esprit Saint. Il vient habiter dans notre cœur. Et après, eh bien, Dieu veut que Christ prenne de la place par l'Esprit Saint. Et c'est ça, que Christ soit formé en vous, c'est le fait de laisser Jésus-Christ prendre de la place. Hein. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse, que je diminue. C'est comme ça que Christ est formé en nous, qu'il apparaît en nous. Et ça prend du temps. Mais Dieu vise à accomplir son plan. Nous, il est en train de le faire, chacune de nos vies. Alors, eh bien, que la patience de Christ se développe en nous au sein des épreuves qu'on attende, qu'on traverse. Que le caractère de Christ puisse se manifester par l'Esprit Saint. Et que l'approbation de Christ puisse nous suffire.